filigrana imprecisa. Um toque de calçada e palavras imensas sussurram olhares precisos. Na Divergência FM.
Filigrane imprécis. Poésie, littérature, musique, lignes chaotiques, murmures clamés d'un chant portugais sur Divergence FM. Filigrane imprécis sur Divergence FM, le 93.9, une émission proposée par l'association Casamadis, l'association culturelle de langue portugaise de Montpellier. Florent Robin au micro, nous avons beaucoup de monde dans le studio, il y a beaucoup de sujets à aborder. On va commencer par Tito Livio Santos Mota. Bonjour Tito, qui est le président de Casamadis.
Bonjour.
Nous avons le plaisir de recevoir M. Philippe Tinès, qui est donc conseiller municipal et adjoint au maire, qui va nous parler d'Europe aujourd'hui. Bonjour.
Bonjour.
Nous avons Grazia Cioffarelli, bonjour.
Bonjour.
Qui va nous parler de l'association des services de traducteurs d'urgence et qui est venue avec Marina Sonzoni. Est-ce que j'ai écorché votre nom ?
Pas du tout.
Voilà,
bonjour.
Ça va. On va commencer tout de suite par rappeler un petit peu les activités de Casamadis avant de parler plus précisément d'Europe. Samedi dernier, nous avons donc eu le banquet républicain de Casamadis, un banquet puisque nous célébrons le 100e anniversaire de la République portugaise et que nous sommes républicains à Casamadis.
Et héros de la mer, comme dit notre hymne national.
Voilà, donc le banquet s'est très bien passé. Grazia, tu étais là.
Oui, c'était excellent, c'était magnifique.
C'était une très belle soirée.
Absolument.
Voilà, on recommencera bientôt ce genre de festivités parce qu'on est culturel à Casamadis, mais on aime bien aussi le côté festif et on essaie d'associer les deux. Voilà. Alors, dans les activités à venir, avant de parler d'Europe, je vous rappelais qu'on participe au festival des boutographies off. C'est-à-dire que c'est la première année où il y a un off dans les boutographies et Casamadis, à partir du 22 mai, organise une exposition de photographes à son local, donc à l'espace Jacques Ier d'Aragon.
Qui se trouve à Richter, au tram Rive du Lez.
L'adresse complète, c'est 117 rue des États Généraux.
Ou place de la Révolution française.
Et ça nous fait très plaisir d'avoir une place de la Révolution française à nous, à Casamadis. Voilà, donc ça sera du 22 au 28 mai. Il y aura trois photographes qui seront exposés. Il y a Vanessa Delaterre qui va faire une exposition sur le Brésil. Ferdinand Fortes, qui est par ailleurs le vice-président de Casamadis, qui lui a parcouru les rues de Montpellier avec son appareil photo et donc qui présente une exposition qui s'appelle « Le piéton de Montpellier ». Un petit clin d'œil à Léon-Paul Fargue qui avait écrit « Le piéton de Paris ». Et une amie de Casamadis, Fanny Duon-Hu, qui a participé de nombreuses fois à nos activités et qui, elle, fait une exposition sur le Mékong. Donc du 22 au 28 mai, cette exposition Casamadis pour les boutographies off. Sinon, Casamadis va être présente pour la Journée de l'Europe. La Journée de l'Europe, ça sera dimanche. Et il y a des choses qui se préparent à Montpellier, place de la Comédie. Et nous, on aura donc un stand le 9. Et je sais que Tito va préparer des plats de cuisine de cet après-midi. Je ne sais pas encore ce qu'il va nous réserver. Je sais déjà qu'il y aura du vin portugais, du vigno verde. Nous, on va présenter au stand. Je ne sais pas ce que tu vas nous faire au niveau cuisine, Tito.
Il y aura des gâteaux, il y aura du salé. Vous verrez bien sur place.
Il faut venir.
Oui.
Alors, Monsieur Tinès, donc cette journée de l'Europe, c'est un peu une première pour Montpellier. Il y avait déjà eu une tentative, une ébauche l'année dernière. Et là, ça me semble prendre un peu plus d'importance.
Oui, ça prend un peu plus d'importance, mais on peut dire quand même que c'est la deuxième année, mais qu'on est encore en préparation pour faire une vraie journée de l'Europe sur Montpellier, parce qu'on est quand même la 8e ville de France. Donc dimanche, ça sera beaucoup plus structuré. Il y aura les associations qui vont préparer des plats, qui vont nous proposer des produits des différents pays. Il y aura plus d'associations que l'année dernière et surtout on sera beaucoup mieux placé parce que l'année dernière on se retrouvait tout au bout de l'esplanade où c'était vrai, où il n'y a pas beaucoup de personnes qui passent devant et dimanche on sera sur la Comédie et donc là on sera beaucoup plus visible et les associations seront beaucoup plus motivées pour venir se présenter.
D'après ce que j'ai compris, ça sera un peu plus ouvert que l'année dernière parce qu'il n'y a pas que des associations des pays de la communauté européenne.
Tout à fait. Bon, il faut dire que sur Montpellier, ce qui représentait la Journée de l'Europe, c'était l'Europe gourmande, qui est quelque chose d'extraordinaire et de très bien fait, mais qui réunissait surtout les associations et qui était un peu fermé aux Montpelliérains. Ce qu'on essaye de faire, c'est de faire en sorte que ce soit beaucoup plus ouvert et que les Montpellierens participent à la Journée de l'Europe, parce que la difficulté qu'on a, c'est qu'on entend souvent décrier l'Europe sur toutes les difficultés, mais on la valorise pas dans les différents domaines où elle intervient.
Et il semble aussi qu'il y a beaucoup d'incompréhension et beaucoup de manque d'information en ce qui concerne l'Europe.
Tout à fait, c'est pour ça que la Journée de l'Europe est importante, qu'il faut la valoriser, qu'il faut la faire voir, que les associations montrent tout le travail qu'elles effectuent de rencontres entre les personnes, parce que c'est surtout ça, c'est plus une méconnaissance aujourd'hui des cultures, des personnes, qui font qu'aujourd'hui on a des conflits, on a des gens qui veulent pas, on a politiquement un resserrement du nationalisme. Et ça, on le voit dans toute l'Europe. Donc, les associations ont vraiment un travail important à jouer. Elles le font de connaissance des différentes cultures.
C'est vrai que moi, personnellement, il y a plein de pays d'Europe dont j'ignore beaucoup de choses. La Roumanie, par exemple.
À terme, ce qu'on veut essayer de faire, c'est qu'il y a des Roumains à Montpellier. Il y a une diaspora roumaine à Montpellier. Le problème, je les ai rencontrés, mais elles veulent rester discrètes parce qu'il y a des Roms. Et aujourd'hui, elles disent, regardez l'image qu'on donne à la Roumanie avec les Roms. C'est ce que je leur dis, montrez aussi qu'il y a des Roms, il y a un problème, donc faut les aider, et c'est à vous de les aider à s'intégrer. Mais il y a un vrai rejet, et c'est difficile, mais après, c'est avec les associations, justement, qu'on arrivera à faire en sorte que les gens puissent se parler, mais même de même nationalité.
Moi, ce qui me semblait intéressant, nous on a participé plusieurs fois à l'Europe gourmande, on a même eu une fois un deuxième prix. Moi, ce qui me semblait intéressant, justement, c'était de discuter avec les autres associations et puis en même temps de se découvrir. Et je pense que cette journée donc, qui va avoir lieu, donc Place de la Comédie, ça sera aussi l'occasion de passer d'un stand à un autre et puis de discuter avec
les
associations.
Tout à fait. Et vraiment, le but à terme, c'est qu'il y ait une représentation des 27 pays européens et aussi de la Commission européenne, qu'elle se fasse connaître et savoir aussi pourquoi l'Europe existe. Parce que est-ce qu'elle existe simplement pour dire le saucisson il doit être carré au lieu d'être rond, que le fromage doit être aseptisé et qu'il faut pas qu'il y ait de lait cru dedans? Non, l'Europe c'est autre chose. C'est certes une harmonisation de ce qui se passe en Europe, mais c'est aussi un développement des différents pays. Et ça c'est mal connu et c'est important.
J'ai oublié de présenter autour de la table, il y a aussi avec nous Yves Gurcan. Bonjour, tu es très loin du micro, on va partager le micro. Et qui anime une émission à Divergence qui s'appelle Europe 27. Qu'est-ce qui t'a poussé à animer cette émission, à avoir l'idée de cette émission ?
Justement, quand Monsieur Tinès parle de l'Europe comme ça, c'est vrai qu'on a beaucoup d'a priori sur nos voisins, les Européens. On n'a pas cet esprit en fait d'identité européenne, de citoyenneté européenne. Et cette émission Europe 27, qui est diffusée tous les 4e mardis du mois, en fait, elle est là pour apprendre à mieux connaître nos voisins et faire tomber un peu les clichés et un peu connaître notre histoire commune.
Et c'est vrai qu'à Divergence, on a beaucoup d'émissions internationales, mais on a peu d'émissions européennes, à part l'émission Filigrane Imprécis qui parle du Portugal. On a des émissions sur l'Amérique latine, on a des émissions sur le Brésil, mais on n'a pas énormément non plus d'émissions sur l'Europe. Donc c'était une très bonne initiative à toi. On va faire une première petite pause musicale avec une chanteuse portugaise qui s'appelle Raquel Tavares. C'est Gradia qui m'a prêté le disque et on va écouter ça tout de suite.
Noite, fosse brilho teu que brilhando brilhasse para iluminar teu céu. Noite, sou só triste olhar que se perde nos olhos de quem me quer olhar. Leves vultos sorrateiros nas esquinas, nos umbrais. Seguem-me uns olhos mateiros, agudos como punhais. Troco olhar pesaroso, cruzado entre os demais, com olhos presos a corpo que se aquece entre jornais. Na viela ainda é timbre rouco, magoado, nasce pra iluminar teu céu. Noite, sou só um triste olhar que se perde nos olhos de quem me quer olhar. Uma porta que se abre, outra fecha-se num estrondo. Um olhar frio e redondo. As montras escurecidas por trás de grades cerradas. As vidas prendem-se às vidas com grades insuspeitadas. Um pombo levanta e voa. Os passos assustados, só a noite é que Lisboa enlouquece a voz num fado. Noite, fosse um brilho teu que brilhando brilhasse para iluminar teu céu. Quem me quer olhar.
Filigrane imprécis sur Divergence FM, et on vient d'entendre la très belle voix de Raquel Tavares. Grazia, merci de m'avoir prêté le disque et puis de m'avoir fait découvrir cette chanteuse. Tu l'avais vue en public, toi, il y a quelques mois.
Absolument, on avait été avec Tito il y a 2 ans, hein, Tito, je crois. Et moi, j'avais été enchantée et donc j'avais acheté le CD.
Et elle va nous accompagner toute la matinée.
Ah oui, non mais très très bien.
Alors je dois dire une chose sur le disque, je trouve que l'enregistrement n'est pas excellent parce qu'elle a une voix beaucoup plus puissante et elle a, dans l'enregistrement elle est toujours un peu en retrait des instruments et je l'ai écoutée à la maison et je trouve que c'est dommage parce qu'elle a vraiment une vraie voix puissante.
Et en plus, elle a une présence sur scène magnifique, elle est magnifique.
Il faut faire cette remarque.
Donc Raquel Tavares qui va nous accompagner toute la matinée. Nous sommes là ce midi pour parler de l'Europe, puisqu'il y a la journée de l'Europe le 9 mai prochain, et il y a des activités qui se passent Place de la Comédie, où nous serons, nous, Casa Amadis, avec d'autres associations européennes et extra-européennes. On parlait un petit peu hors antenne de la situation de l'Europe actuelle, situation qui est un peu difficile. Est-ce qu'on peut dire maintenant que le problème, c'est qu'il n'y a plus de fibre européenne ou...
Enfin, oui, on peut dire qu'il n'y a plus de fibre européenne. On le voit dans les différentes élections dans les pays européens. Pour prendre que l'Italie, quand on voit que la Ligue du Nord fait un tabac, et où on sait qu'ils sont anti-européens. En Pologne, bon, avec la catastrophe qu'il y a eu, mais on sait que le gouvernement polonais, bien qu'il ait adhéré à l'Europe, n'était pas pro-européen, puisqu'il n'a jamais voulu valider avec le Parlement l'adhésion aux structures. Donc on s'aperçoit que dans différents pays, et puis... L'Angleterre, qui est quand même une des plus vieilles nations européennes, et puis qui ne rentre pas dans toutes les structures qui existent. Donc il y a un repli identitaire et nationaliste de plus en plus en Europe. Et justement, c'est ce qu'on a vécu avant toutes les grandes guerres. Et l'Europe aujourd'hui, avec ses structures qui ne sont pas parfaites, évite justement qu'il y ait des affrontements. Et ça, c'est quelque chose d'important, parce que l'Europe a été construite, comme on le disait tout à l'heure, en dehors de l'antenne, après-guerre, après la Seconde Guerre mondiale, pour vraiment faire qu'il y ait une union et qu'on aille vers la paix entre la France et l'Allemagne. Mais aujourd'hui, on s'aperçoit que les nationalistes remontent, reviennent, que ce soit en Espagne, avec les phalanges qui reviennent de plus en plus et se montent de plus en plus, et n'ont plus honte, et les nationalistes n'ont plus honte de se montrer.
Est-ce qu'on ne peut pas dire que le problème avec l'Europe, c'est qu'on a voulu faire d'abord une Europe économique et qu'on a un peu laissé le social de côté ?
Non, je pense qu'on a été au plus rapide, au plus facile. On sait que le premier accord, c'est sur
comment on appelle le charbon,
le charbon et l'acier, voilà, tout à fait. Parce qu'on sait que c'était une des raisons du conflit entre l'Allemagne et la France. Donc on a été au plus rapide, ce qui pouvait être le plus conflictuel. Mais aujourd'hui, on a raté, on est resté au milieu du guet et on va pas plus loin parce que pour que vraiment l'Europe démarre, il faudrait qu'on aille vers une Europe fédérale, vers un gouvernement européen, avec un Parlement qui est un vrai pouvoir. Aujourd'hui, qui connaît le président européen? Parce que si on regarde un peu, on a l'impression qu'il y en a trois. Et à quoi ils servent? Qu'est-ce qu'ils font? Qui prend les décisions? C'est encore les commissions? C'est le Parlement? On ne sait plus exactement comment marche l'Europe. Et c'est pour ça qu'il y a une désaffection des citoyens des pays en général, hein, des différents pays européens, pas que de la France. Qui, bah, ils se disent, ce machin-là, à chaque fois qu'on en parle, bah, c'est parce que ils nous imposent des règles qu'on veut pas forcément, mais ils parlent pas de tout ce qu'apporte l'Europe. Mmh. Et ça, c'est un vrai problème de communication, mais aussi d'efficacité.
Moi, j'ai quelque chose à dire là-dessus. Moi, je suis un Européen convaincu, et pourtant, je me suis opposé au traité de constitutionnel, parce que je trouve justement qu'il n'apporte pas assez d'Europe. Et on me taxait tout de suite d'anti-européen, alors que moi, simplement, je pense qu'il faut plus d'Europe, justement, au niveau de la démocratie, c'est-à-dire accepter, chose que les gens ne veulent pas, accepter qu'on ait un gouvernement européen qui est choisi par tous les Européens et qui donc ne sera pas forcément de la couleur politique qui est la nôtre ou qui est majoritaire chez nous. Si l'Europe est majoritairement, je ne sais pas, à gauche, ben, il y aura un gouvernement de gauche et peut-être qu'en France, on sera de droite et ainsi de suite. Et c'est ça la démocratie. Or, l'Europe n'est ni une chose ni l'autre. Elle est entre les deux. Alors du coup, on a un président de la Commission européenne qui est élu, je ne sais pas comment. Après avoir été chassé du pouvoir au Portugal, ce qui est quand même drôle, c'est-à-dire les chasser coup de pied au derrière. Et tout de suite, hop, on annonce dans les journaux, c'était un tabac au Portugal, les gens disaient, mais c'est n'importe quoi cette affaire. On disait, bon, il a trouvé un tache, comme on dit, c'est-à-dire il a trouvé un piston, une sinécure, etc. C'était ce qu'il disait la presse et ce qu'il disait l'opinion publique au Portugal. Il disait, comment est-ce que cet animal qui vient de ruiner le pays est nommé président de la Commission européenne? C'est lui qu'on choisit pour diriger l'Europe. Et pourquoi? Parce qu'on ne sait même pas pourquoi il a été élu et par qui. Si c'était le Parlement européen, le Parlement de droite, etc., qui avait élu ce monsieur, on dirait, bon, bah, la droite européenne est d'accord avec lui. Et on aurait certainement beaucoup mieux accepté cette anomalie, parce que ça en est une, de nommer quelqu'un qui a failli dans un petit pays et qui est immédiatement nommé pour diriger la grande Europe. C'est quand même... Il faut corriger ça. Il faut quand même accepter... Il manque de démocratie à l'intérieur même des institutions européennes. C'est-à-dire les gens ne veulent pas accepter que la Commission européenne doit répondre devant un Parlement. Les gouvernements européens ne veulent pas lâcher prise du fait qu'à ce moment-là, la Commission européenne leur échapperait automatiquement, puisqu'elle ne serait pas nommée par eux, mais par un Parlement qui ne serait pas forcément de leur couleur politique. C'est tout ce travail-là qu'il faut faire.
Parce que le problème aujourd'hui, c'est que les commissions européennes sont représentatives des nations. C'est-à-dire que les différentes personnes qui composent ces commissions, c'est un quota par pays. Donc on retrouve les États, les nations intérieures, et chacun veut défendre sa représentativité gouvernementale et pas l'Europe. Tout le problème est là. Alors que le Parlement européen, qui est beaucoup, là je suis d'accord avec toi, qui est beaucoup plus démocratique, devrait jouer ce rôle-là. Mais aujourd'hui, les États ne sont pas prêts à lâcher leur pouvoir. C'est bien là toute la difficulté. C'est qu'aujourd'hui, la fibre européenne, on s'est arrêté au traité de Maastricht, parce que jusqu'à là, il y avait quand même une vraie idée européenne, on avançait, et depuis le traité de Maastricht, qui était une ouverture économique pire que le traité, qui est le dernier traité qu'on a mis en place. C'est pour ça que c'est assez marrant qu'aujourd'hui, on dénigre le dernier traité qui s'est terminé par le traité de Lisbonne, d'ailleurs. on a aseptisé un peu, en gardant quand même tout ce qui était négatif dedans, mais bon, ça, c'est encore notre histoire. Et aujourd'hui, moi, je pense que le premier traité qui était, enfin, le dernier traité avant le traité de Lisbonne qui était proposé sur la Constitution, c'était une base, c'était des fondations, parce que c'est difficile de faire s'entendre différentes nations qui ont différentes lois sociales, etc. Et que si on avait pu faire voter ça, bah, ça tirait quand même vers le haut l'Angleterre, par exemple, qui a au niveau social un retard considérable, et puis d'autres pays comme ce qu'on appelle les anciens pays de l'Est, ça leur permettait d'avoir quand même des dispositions sociales. Et je pense que là, on a raté quelque chose d'important. Je comprends ceux qui ont voté non, parce que c'est vrai que ça aurait peut-être remis en cause quelques, quand même, comme en France, socialement, quelques petits avantages, entre guillemets, quand je dis avantages, parce que c'est, quand on a des acquis sociaux, c'est jamais des avantages. Ça a toujours été acquis par des luttes, donc il faut faire attention aux mots, donc je mets bien les guillemets. Mais ça aurait permis surtout à certaines nations, à certains pays, de nous rattraper. Et là, après, on aurait pu repartir sur quelque chose de sain et aller beaucoup plus loin. Mais aujourd'hui, on a raté ça. Et aujourd'hui, bon, on s'aperçoit que l'Europe ne marche pas. On le voit en Grèce. Mmh. Quand on voit quand même qu'en Grèce, ce sont les banques qui attaquent directement la Grèce, l'État grec et l'euro, puisque l'euro, par contre-coup, est en train de baisser. Et que la seule réponse de l'Europe, c'est de faire demander au FMI de venir aider la Grèce et puis l'Allemagne et la France qui vont emprunter à 1% ou 1,5% et qui vont prêter à 5%, c'est scandaleux. Mmh. On a la Banque européenne. Où est la Banque européenne? Elle n'a pas dit un mot. Son président n'a pas dit un mot. C'est scandaleux. C'est pour ça que l'Europe a de plus en plus une mauvaise image, parce qu'on a des structures, on ne sait pas à quoi ça sert. On fait appel au FMI. Enfin, il faut savoir que le FMI n'intervient normalement que dans les pays les plus pauvres et les plus déshérités. Que l'Europe, parce que moi, la Grèce, je ne la mets pas à part de l'Europe, donc c'est donc que l'Europe soit obligée de faire appel au FMI, oui, ça devient catastrophique.
Et puis, on n'a pas voulu mettre le doigt là où ça blesse. C'est-à-dire que la Grèce est un pays qui n'a pas de comptabilité publique. D'ailleurs, c'est scandaleux. Moi, ça me révolte. Je suis portugais. On ne peut pas comparer le Portugal, qui a une comptabilité publique absolument exemplaire, avec la Grèce. On n'a pas fait n'importe quoi là-bas. On a fait ce qu'on pouvait dans un pays qui a un déficit chronique de pouvoir d'investissement. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a adhéré à l'Europe, en premier lieu, il faut bien le dire, parce qu'on voulait avoir enfin, et on l'a eu, et ça c'est le grand, disons, du bien de l'Europe aussi. C'est ce que l'Europe a apporté au Portugal socialement, c'est le pouvoir d'investissement qui n'avait jamais eu. Au 19e, on a raté la révolution industrielle, puisque l'État a fait faillite, puisqu'il manquait l'argent pour investir. Et l'Europe nous a apporté ça. Donc c'est très bien d'être dans l'Europe. Ben, quand il y a un parce que M. Sarkozy, disons les choses, et Mme Merkel, quand ils sont réunis avec les Américains, ils n'ont pas voulu résoudre le problème des banques, de la fiscalité sur les banques et de la fiscalité à l'intérieur de l'Europe. Et ils n'ont pas voulu. Ça ne les arrangeait pas. Et maintenant, ils viennent dire « Ah, mais alors, tout le monde qui est un peu dans la débine, les Espagnols, les Portugais, mélangent tout, les Irlandais, France, mais ça n'a rien à voir. » Bah, alors que la France est bien pire que le Portugal au niveau financier. Sauf qu'elle a un pouvoir, justement, de refinancement qui lui permet de jouer la bonne carte. Voilà, c'est tout.
Est-ce qu'il n'y a pas aussi un phénomène, moi, qui me semble assez curieux, c'est-à-dire, est-ce qu'on ne se sert pas aussi un peu de la Grèce pour désigner du doigt le Portugal et l'Espagne, qui, comme par hasard, sont dirigés par des socialistes?
Non, et puis c'est fictif. On sait que les notes qui sont données, parce que tout vient d'organismes qui donnent des notes, mais on sait très bien que ce sont les grands financiers qui sont dans ces conseils d'administration. Ils savent très bien qu'il suffit qu'ils donnent une note pour que les bourses, elles dévissent. Mais les bourses, c'est quoi? C'est encore les grands financiers, c'est eux qui tiennent tout. Il suffit qu'ils... On n'a jamais fait autant d'argent à la bourse actuellement. Il n'y a jamais eu autant de gens qui gagnent de l'argent aujourd'hui.
Mais c'est bien ça ce qui est scandaleux aussi.
Bien sûr que c'est scandaleux. Et c'est là où l'Europe devrait jouer son rôle. Le rôle qu'elle ne joue pas aujourd'hui. Parce que l'Europe, elle aurait son efficacité, justement, c'est à dénoncer ça, comme disait Tito. Si, lors de la crise, qui a été quand même un détonateur, il y a une réelle volonté des nations, puisque c'est le cas, mais aussi de l'Europe. La Banque européenne, on ne l'entend pas. Et c'est ça qui est scandaleux. Et c'est elle qui devrait réguler tout ça, de façon à ce que ce soit pas qu'un pays ne soit pas pratiquement en faillite.
Mmh. Gradia, tu voulais intervenir là-dessus?
Eh oui, non, mais je voulais simplement dire que la Banque européenne, que je sache, elle a énormément de fonds en plus à disposition. Elle est très riche. Alors que fait la Banque européenne de tout cet argent qu'elle possède, qu'elle a dans ses coffres?
Le grand problème, c'est que la Banque européenne aujourd'hui, elle n'est indépendante de l'Europe et de tous les pays. Elle est complètement autonome. C'est-à-dire qu'elle intervient quand elle veut, comme elle veut, mais c'est scandaleux parce que les États devraient pouvoir faire pression sur elle pour qu'elle intervienne directement.
Mais je crois que c'est justement ça. Je crois que c'est justement ça le principal problème de l'Europe aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de fiscalité européenne. C'est-à-dire que les États n'ont aucun contrôle l'Europe plutôt n'a aucun contrôle sur la fiscalité de chaque État. Donc chaque État est libre de dire ce qu'il veut, et la Grèce, elle a manifestement menti lorsqu'elle nous a parlé de...
Tout à fait. Et elle n'a pas de comptabilité publique, il faut le dire. C'est gravissime d'avoir accepté qu'un pays continue de ne pas avoir de comptabilité publique.
Yves, tu voulais intervenir, toi qui animes l'émission Europe 27 ?
Non, oui, c'est-à-dire que j'entends bien tout ce qui se dit sur ce plateau, en fait. Mais disons que l'Europe, c'est compliqué parce qu'on parlait de la CECA, on parle du traité de Lisbonne. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, l'Union européenne, c'est quelque chose d'assez inédit, en fait, dans le monde entier. C'est une structure qui atteint un niveau qu'on n'a jamais vu autre part dans le monde, en fait. Et par rapport à, par exemple, l'euro... L'euro, c'est la plus forte intégration économique qui puisse exister au monde. 16 pays qui utilisent la même monnaie, et il y en a même plus qui utilisent aussi l'euro. Et le problème de l'Europe, en fait, c'est que c'est une espèce de laboratoire expérimental, donc on essaye. Voilà, on fait un traité comme ça de temps en temps, on va un petit peu plus loin, mais c'est jamais parfait. Il y a toujours des défauts, des choses à corriger, et bien sûr, c'est pour ça que l'Union européenne est sujet à beaucoup de critiques, parce que c'est difficile d'avancer sur un terrain inconnu, inédit, quoi. Voilà.
Peut-être qu'il fallait réfléchir avant aussi. Je sais pas. Moi, je conçois très bien qu'on ait fait l'Europe après la Deuxième Guerre mondiale, notamment justement sur en faisant un accord. Ça s'appelait la CECA, donc la Communauté européenne du charbon et de l'acier, parce que effectivement, ça voulait dire en contrôlant ce qui à l'époque était effectivement les moyens, disons, de la guerre, donc le charbon et l'acier, on arrivait dans une période de paix et de prospérité. Si on faisait aujourd'hui effectivement la même chose entre l'Iran et les Israéliens au niveau des armes nucléaires ou que sais-je, ça serait parfait. Mais j'ai l'impression qu'en Europe, en fait, avec l'Europe, on en est resté là, quoi, à dire, OK, nous sommes une zone où il n'y aura plus de guerre. C'est bien, mais après, Où va-t-on ? C'est ça que j'aimerais savoir. Où va l'Europe ?
Je crois que le problème, c'est que personne ne le sait. Et surtout, les nations, les pays, ça leur va très bien de la façon dont ça fonctionne aujourd'hui. Ils gardent leur pouvoir et ils ne veulent pas aller plus loin dans une constitution vraiment européenne. Au-delà de l'euro, qui a été quelque chose d'extraordinaire, parce qu'économiquement, heureusement qu'on a l'euro, parce que sinon ça ferait longtemps que certaines économies de beaucoup de pays, dont la France, auraient sauté.
Oui, mais lorsqu'on avait les monnaies, excuse-moi de t'interrompre, Philippe, mais lorsqu'on avait les monnaies nationales, une des choses que l'on pouvait faire lorsque l'économie allait très mal, c'était la dévaluation de la monnaie pour relancer.
On peut toujours dévaluer, mais le problème, c'est qu'aujourd'hui la banque européenne.
On arrive à une sorte on arrivera de toute façon à une sorte de parité entre l'euro et le dollar, c'est-à-dire que bientôt, parce que l'euro baisse, bientôt l'euro vaudra 1 dollar, et encore une fois, qui c'est qui aura gagné la bataille ?
Oui, c'est les Américains. Voilà. Non, mais les Américains, c'est sûr qu'aujourd'hui, c'est eux qui dominent le monde économique, le monde politique, et puis le monde, c'est la plus grande puissance militaire aujourd'hui.
Alors que peut-être une bonne dévaluation en temps voulu aurait relancé nos économies et nos exportations,
bien sûr, mais
des
aujourd'hui,
choses comme ça, et baissé la dette, puisque la dette est fixée en dollars.
Mais aujourd'hui, on peut le faire. C'est que la Banque européenne ne veut pas le faire parce qu'elle est indépendante et qu'elle ne veut, économiquement parlant, elle ne veut pas le faire. Et c'est là où les États devraient avoir la capacité d'imposer des directives politiques à l'économique.
On va faire une petite pause musicale, toujours avec Raquel Tavares.
Inquietou-se o meu olhar no teu, perdida nos pensamentos, onde me escondo. Por momentos descuidou-se o teu olhar no meu, e à mercê desses tormentos, tu me vais pondo. Tu nasceste por mim e por mim esperas, no azul escuro da nossa fria solidão. Como em Roma um cristão meu peito, meu coração. Por momentos inquietou-se o meu olhar no teu, perdida nos pensamentos, onde me escondo. Por momentos descuidou-se o teu olhar no meu, e à mercê desses tormentos tu me vais pondo. Capaz de voar firme com o seu bando, assim ando eu pelas ruas da velha cidade, sem que a cidade velha perceba onde eu ando. Por momentos inquietou-se o meu olhar no teu, perdida nos pensamentos, onde me escondo. Por momentos descuidou-se o teu olhar no meu, e à mercê desses tormentos tu me vais pondo. Então diz-me, meu amor, quem mais se importa escuro azulado da solidão? Essa mão que pode abrir toda a minha porta, mas no momento esperado retiras a mão. Por momentos inquietou-se o meu olhar no teu, perdida nos pensamentos, escondo. Por momentos descuidou-se o teu olhar no meu, e à mercê desses tormentos tu me vais pondo. À mercê desses tormentos tu me vais pondo.
Filigrane apprécie sur Divergence FM 93.9 et nous parlons d'Europe ce midi. On a essayé d'aborder un petit peu les points négatifs, et Dieu sait s'il y en a dans la construction européenne. Mais j'aimerais bien qu'on aborde maintenant un peu les aspects plus positifs, parce qu'il y a quand même des choses positives dans cette construction européenne.
Moi je pense, on parlait hors antenne, c'est, par exemple au Portugal quand on y va, partout on voit FEDER, le symbole européen, dans absolument tout et presque n'importe quoi. Hein, j'ai vu ça par exemple dans écoulement d'eau usée par exemple, évidemment les autoroutes, le TGV. Par exemple, le Portugal a décidé d'avoir une politique de gros investissements publics pour relancer l'économie, et plus d'un quart, voire un tiers, et parfois même deux tiers quand c'est transfrontalier, de ces investissements sont financés par l'Europe. Alors qu'en France, on ne voit jamais marqué, ou alors c'est tout petit. Mais ça donne par exemple des choses comme ça. Par exemple, quand les gens critiquent, là, par exemple, on va mettre des péages dans des autoroutes qui étaient gratuites. Ce qui est interdit par la loi, d'ailleurs, puisque s'il n'y a pas d'alternative dans la loi portugaise, on ne peut pas mettre un péage sur une route qui n'a pas d'alternative valable. Alors là, ils sont très mal parce qu'on ne peut pas mettre une péage pour les légers et puis un autre pour les poids lourds. Mais pour revenir à notre affaire, qu'est-ce qu'ils pensent les gens ? Les gens disent « Ah, mais l'Europe a payé les autoroutes et les mecs, maintenant, ils vont nous taxer dans notre portefeuille C'est-à-dire, ils ne disent pas l'Europe, c'est la responsable. Ils disent, non, au contraire, ils se sont fait payer des autoroutes par l'Europe et maintenant, ils vont profiter pour, ne, en plus, nous taxer, nous. C'est-à-dire, les voleurs, c'est pas, c'est le gouvernement, quoi. Mais c'est, donc, il y a des petites choses qu'il faut faire et que des fois, ça clarifie les choses, de dire, voilà, que le TGV qui va être construit ici à côté de Montpellier, eh bien, puisqu'il est transfrontalier, je ne sais pas le pourcentage d'apport européen, mais il doit dépasser les 50%. Parce que normalement, ouais, quand c'est transfrontalier, c'est presque intégralement payé par l'Europe.
Non, mais il faut savoir que l'Europe intervient dans tous les domaines, hein, tous les grands travaux, mais aussi, parce qu'on sait ce qu'on connaît le plus et c'est ce qu'on voit le plus. Bien que ce ne soit pas indiqué sur les panneaux, ça c'est sûr que c'est, quand c'est indiqué c'est tout petit, bien que, et normalement c'est obligatoire, parce que quand l'Europe verse des financements, ils veulent que leur logo apparaisse. Donc ça c'est
normal.
Ce qui est tout à fait normal, et ça devrait être en plus gros. Mais c'est vrai qu'on a un gouvernement aujourd'hui qui n'est pas pro-européen, qui ne démontre pas son attachement à l'Europe, donc tout en découle. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que certes, ils interviennent dans les grands travaux d'infrastructure, ça c'est leur premier rôle, mais ils interviennent aussi dans l'éducation. Dans l'éducation, l'Europe intervient normalement, mais qui le sait ? À quel moment on indique que l'Europe participe et finance les différents échanges qu'il peut y avoir entre les différents pays ? Ça intervient dans l'agriculture, mais pas seulement en donnant les quotas, etc. Ça intervient pour le développement, pour la recherche. Ça intervient dans la culture. Enfin, il faut savoir que dans la culture, ils interviennent énormément. Ça intervient dans les bâtiments, les historiques. Enfin, l'Europe est de partout, mais on ne le valorise pas, on ne le dit pas. Et quand on interroge les citoyens sur la perception de l'Europe, ils disent l'Europe, c'est très loin, on ne sait pas exactement ce que c'est. Non, l'Europe, elle est tous les jours, dans tous les domaines. Et à chaque fois qu'on tourne un coin de rue, bah, l'Europe, elle est là. Et c'est ce qu'il faudrait faire connaître aux citoyens pour leur dire que l'Europe, bah, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de bien. Il faut quand même savoir que l'Europe, ça existe depuis longtemps. L'Europe, ça a été construit que par des guerres jusqu'à maintenant. Rome, Charlemagne, où là aussi, il avait institué une monnaie unique. C'était une première, mais il l'avait instituée. Mais par des guerres, par des massacres. Napoléon, Hitler, tout ça, ça s'est construit par des guerres. Aujourd'hui, on a la chance qu'on a construit l'Europe sur la paix et qu'elle intervient de partout. Mais disons-le aux citoyens pour qu'ils puissent adhérer vraiment à la philosophie européenne.
Oui, en plus aussi, l'Europe cherche une extension vers l'autre rive de la Méditerranée à travers des différents programmes. Je pense à Interreg, par exemple. Donc, il est vrai, il y a le Fonds social européen qui intervient au niveau social. L'Europe finance les crédits pour les personnes qui ne seraient pas solvables autrement, à 0%. Je ne sais plus comment on appelle ça, le crédit social, je crois, ou quelque chose comme ça. Donc, il y a des choses qui sont très positifs au niveau de l'Europe, bien sûr.
Bah, au niveau de l'enseignement, moi, j'ai une nièce qui étudie en Angleterre grâce à l'Europe, qui fait son Master 2 en Angleterre. Je voyageais depuis le Portugal, je voyageais avec une fille qui faisait son doctorat grâce à l'Europe. Elle a pu aller en Angleterre, c'était une Espagnole, et venait faire ici à Sète une partie de sa recherche de doctorat grâce à l'Europe. Et en plus, ça a sorti les universités aussi de leur petit aspect corcardier. Parce que les étudiants en allant ailleurs, parfois ils s'aperçoivent que c'est pas forcément mieux, mais très souvent aussi, ils s'aperçoivent que leur fac est bien minable par rapport à d'autres. Et pas forcément dans les très grands pays européens.
Il faut savoir que l'Europe, certes, s'occupe des universités, et ça, c'est ancien, parce qu'il y a toujours des échanges entre les différentes universités, et c'est vrai que l'Europe a développé ça, et l'a rendu beaucoup plus facile pour les étudiants, mais ça va au-delà, et ça, on le connaît mal. L'Europe intervient aussi dans les lycées, intervient dans les collèges, et dans les écoles primaires. Dans les écoles primaires, il y a des échanges qui se font, il y a différents programmes qui se font, et notamment sur Montpellier, il y a une école, l'école Potier, qui est très en avance là-dessus, où ils ont été en Hongrie l'année dernière, il y a eu des échanges avec 14 nations, 14 pays qui se sont réunis avec des enfants, des professeurs, pour discuter en commun de ce qui pouvait informer les enfants. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire, mais qu'on ne connaît pas, qui est connu que par les personnes qui sont concernées. Et ça, c'est vraiment dommage, qu'il n'y ait pas une valorisation de tout ce qui se fait au niveau européen.
Ouais, ça, c'est vrai. Yves, toi, tu es encore étudiant. Quel est ton sentiment là-dessus ?
Ah oui, alors moi, l'Europe, j'adore ça. Je veux dire, l'année dernière, j'étais en Erasmus en Angleterre et c'est là où j'ai rencontré le plus de nationalités européennes et extra-européennes. Je veux dire, j'ai même rencontré un Palestinien, ce qui est pas étrange, mais je veux dire, c'est fou quoi, de voir un Palestinien de près comme ça, mais c'est pas la question. Par rapport au non, les Palestiniens ne sont pas des extraterrestres, je vous assure. Non, mais par rapport à la question de l'Europe, en fait, ce qui pose un peu souci, c'est la question de la solidarité, justement. On parlait du FSE tout à l'heure, du Fonds solidaire européen, et en fait... Ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'Europe, il y a une Europe à deux vitesses. C'est-à-dire qu'il y a les pays qui sont au cœur de l'Union européenne, qui sont les fondateurs de cette Union, et il y a les pays qui sont venus après, parce qu'on est passé de l'Europe des 15 à l'Europe à 27. Et ça a créé une Europe à deux niveaux, c'est-à-dire qu'il y a des pays qui sont assez, on va dire, dans une situation confortable, et il y a des pays qui ont plus besoin de développement, qui sont dans une situation économique plus difficile. Et justement, les subventions jouent un grand rôle dans cette Europe-là, parce que les subventions permettent à ces pays qui sont un petit peu en retrait de se mettre à niveau avec des pays comme la France ou l'Allemagne, qui eux sont un peu les moteurs en fait de l'Europe. Et ça, c'est un mécanisme très important au niveau de l'Union européenne, parce que c'est nos voisins, donc on a des échanges économiques, humains avec eux. Et ça permet en fait de créer un cœur européen comme ça qui fait que l'Europe devient une sorte de région mondiale face aux États-Unis ou à la Chine. Et le problème, c'est que l'Europe, l'Union européenne, en fait, quand on en parle, souvent on voit que les gens dans les différents pays ont du mal à être solidaires avec un Lituanien ou un Roumain. Et c'est là que l'Europe provoque un petit peu, en fait, voilà.
Oui, Lima, mais tu me fais penser, lorsqu'il a été question d'aider la Grèce, 62% des Allemands ont dit non, on n'a pas envie de l'aider. Donc, je crois qu'on arrivera à faire fonctionner cette immense région du monde que l'on appelle l'Europe, dès lors qu'on fera une véritable fédération des États européens. Sinon,
l'Europe fédérale, c'est la solution.
Oui, je suis pour.
On fait une petite pause musicale et on se retrouve tout de suite.
Tu és a marexia no meu peito e no meu sonho imensa tempestade. A cor do luar quando me deito e pela manhã és quente claridade. Tens a cor do luar quando me deito e pela manhã és quente claridade. Teus lábios sabem sempre a liberdade e há gaivotas bailando em teu olhar. Ao som da tua voz nasce a saudade que embala a minha voz para te cantar. Ao som da tua voz nasce a saudade que embala a minha voz para te cantar, para te cantar os versos do meu fado que mais não é que amar-te cegamente. Assim vamos seguindo lado a lado, o fado tu e eu eternamente. E assim vamos seguindo lado a lado, o fado és tudo o que mais quero neste mundo. Por ti morre meu coração. És tudo o que mais quero neste mundo. Por ti morre amor.
Filigrane imprécis sur Divergence FM avec Raquel Tavares. On va parler maintenant, après avoir abondamment parlé de l'Europe, on va parler d'une association qui me semble très importante, c'est le service des traducteurs d'urgence. Est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement cette association, depuis quand elle existe et sa fonction ?
Oui, alors je commence par prendre la parole, que je laisserai ensuite à Marina, bien sûr. Donc moi, je suis Grazia, je suis la présidente de cette association, qui est une association... Il faut le dire, unique en Europe et qui sert à l'Europe. C'est-à-dire que c'est une association qui travaille avec le numéro d'urgence européen, le 112, qui est entré en fonction dans toute l'Europe en janvier 97. Alors, cette association, en fait, est née un peu avant. Elle est née en juin 96, lorsqu'un groupe d'interprètes a décidé de mettre leurs compétences au service d'une cause humanitaire. Donc, c'est essentiellement Marina et moi qui sommes allés voir les services d'urgence pour leur proposer donc cette initiative qui nous paraissait digne d'intérêt. Et puis, lorsque nous sommes arrivés chez les pompiers... Le colonel de l'époque nous a dit, mais c'est pour nous, c'est extraordinaire, parce que justement, en janvier de l'année prochaine, le numéro d'urgence va entrer en fonction. Alors, qu'est-ce que c'est que ce numéro d'urgence ? Qu'est-ce que c'est que le 112 ? Le 112, c'est un numéro qui est accessible à partir de tous les téléphones, y compris des téléphones portables, et qui doit être un numéro pour secourir les touristes de n'importe quel pays européen dans un pays de l'Union. Par exemple, en France, ce sont les Italiens, les Allemands, les Portugais... tous les gens qui ne parlent pas la langue française et qui ont besoin d'être secourus pour maintes raisons, parce que, je sais pas, ils ont une panne ou parce qu'ils ont besoin d'un docteur, ou il y a X raisons de composer le 112. Alors en France, les préfets ont confié la gestion de ce numéro aux pompiers. Ce n'est pas le cas partout, hein. Par exemple, en Italie, ce sont les carabiniers, en Espagne, c'est la Guardia Civile. Et donc, en France, c'est les pompiers. Donc, cette association fonctionne depuis 15 ans, hein, si je ne m'abuse maintenant. 14. Et elle fonctionne très bien. Je dois dire aussi, par l'engagement des interprètes, par ceux qui ont commencé cette magnifique aventure, donc une 7, 8, 10, en gros, qui sont toujours là, et par les autres qui vont et qui viennent. Marina va vous expliquer tout ça de façon plus ample, parce que c'est elle qui gère tout le côté pratique de cette association maintenant. Tout ça pour dire qu'elle marche très bien, mais qu'elle fonctionne aussi grâce aux aides de la région et de la région, donc Languedoc-Roussillon, et de la mairie de Montpellier, dont je remercie ici Monsieur Tinès. Alors, ce que je voudrais dire aussi, c'est que depuis toujours, la mairie de Montpellier nous a soutenus et aidés, et que si cette association a vu le jour aussi, c'est grâce à Monsieur que je souhaite encore une fois remercier ici, c'est le bâtonnier Fabre, Maître Fabre, lorsqu'il était adjoint au maire pour les relations internationales. Voilà, je laisse la parole à Marina qui va vous expliquer un peu plus comment fonctionne pratiquement cette association.
Bon, d'abord sur le fonctionnement au quotidien, on va dire, c'est au départ une bande de copains, à peu près 7-8 personnes, de nationalités différentes évidemment, puisqu'il y avait une Danoise, une Italienne, moi je suis française interprète en espagnol, un Marocain. Je ne sais plus les autres. Enfin, on était 7 au départ. Et donc, on s'était rendu compte, c'est Grazia qui a eu cette initiative, s'était rendu compte qu'effectivement, dans des situations de détresse ou d'urgence, il n'y avait pas personne qui pouvait répondre, comme ça, bénévolement, rapidement. Donc, avec l'histoire du 112 européen, on s'est dit, est-ce qu'on peut créer quelque chose sous forme associative ? Moi, je travaillais dans l'associatif depuis déjà très longtemps, plutôt dans la culture. Et Gradia est venue me voir en me disant, écoute, toi, tu sais comment ça marche. Moi, je peux mettre en route ça, mais il faut absolument qu'on soit toutes les deux pour qu'on mette l'association sur place. Donc, on a démarré comme ça, avec effectivement d'abord les pompiers de l'Hérault, les premiers. L'année d'après, on avait 5-6 départements qui nous avaient appelés en disant « Il faut absolument que vous nous donniez un coup de main aussi parce qu'on a besoin. » Et puis, c'est passé sur le Grand Sud. Maintenant, on a à peu près la collaboration avec 20 départements en France, plus le CHU de Nantes. Voilà. Ça a été... Et donc, depuis 14 ans, on se réveille la nuit, on a des portables. Le fonctionnement, voilà, pratique, c'est qu'un requérant étranger appelle le 112 et le 112... Essaye de trouver quelle est la bonne langue qu'il parle, ce qui est une première difficulté.
Ouais, ça va de mieux en mieux.
Ouais, ça va mieux. On leur a donné quelques cours pour les bases. Et donc, nous renvoie sur des portables la communication. On fait ce qu'on appelle une conférence à trois. C'est-à-dire qu'on répond quelle est la nature de l'appel, quel est le besoin. Voilà. Ça permet aux pompiers de localiser très, très rapidement, le plus rapidement possible, l'appel. Et donc, on fait ça depuis effectivement 14 ans.
Alors, on a de tout, excuse-moi Marina, oui. Mais on a aussi des situations très drôles. Alors, surtout depuis qu'on a les Alpes-Maritimes, je ne sais pas pourquoi, mais...
Qu'on salue au passage.
Absolument. Mais je vous fais un exemple. Il y a quelques temps, vers 10h du soir, je suis appelée par les pompiers des Alpes-Maritimes qui me passent des Italiens. Vous savez que les riches, il y a beaucoup d'Italiens, les Italiens font vivre les Alpes-Maritimes au niveau du tourisme, soit dit en passant, donc qui m'appelle. Et alors la dame me dit, madame, il faut absolument faire quelque chose. Il y a un canard ici qui bat de l'aile. Et donc, qu'est-ce qu'on fait ? Alors je traduis tout ça au pompier qui, bon, d'abord, il est interloqué. Il me dit, mais il y a des blessés. Je dis, oui, c'est le canard qui est blessé. À un moment donné, il me dit, mais qu'est-ce qu'on fait ? Je dis, mais qu'est-ce que je me dis ? Celui qui le fasse au four. Je dis, attendez, je ne peux pas lui dire ça. Bon, je lui dis, madame, excusez-nous, mais ici, en plus, j'étais un peu... Je dis, madame, vous occupez les lignes des pompiers ici ? Non, le canard va aller voir, il y aura bien un vétérinaire, demandez, nous, on ne peut rien pour vous. C'est que le lendemain, à 10h du matin, la même dame rappelle pour me dire que le canard était toujours blessé au bord de la mer et que... Il fallait donc que les pompiers interviennent. Voilà, on a des choses comme ça. On a des choses beaucoup plus tristes. On a des personnes qui décèdent, des chauffeurs routiers. On a un peu de tout, mais on a aussi des choses drôles. Et voilà, on est tous très 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 contents et très très fiers. Moi, je suis particulièrement attachée à cette association. Et je voudrais remercier les pompiers en particulier. Parce que effectivement, lorsque mon enfant était petit, il a 30 ans maintenant, hein, et il est au Brésil, tiens, ok. il a eu des convulsions et les pompiers sont arrivés dans les 5-10 minutes et ils lui ont sauvé la vie pratiquement parce que moi j'étais complètement effarée, je ne savais pas quoi faire. Et donc voilà, c'est comme une sorte de dette que j'ai envers les pompiers et donc j'espère que cette collaboration durera longtemps, en tout cas tout le temps que je pourrai le faire. Mais nous avons...
Avant que tu partes au Brésil, bien entendu.
Oui, oui. Mais Marina va vous dire que nous avons besoin d'interprètes. En quelle langue, Marina ?
Alors oui, un dernier point pour en revenir à l'Europe. Effectivement, l'Europe a changé depuis la création de cette association, ce qui fait que moi, il y a 10 ans, quand je répondais en espagnol, généralement, j'avais un espagnol au bout du fil. Depuis 3 ans, j'ai la plupart du temps, surtout la nuit, et dans les situations de détresse, parce qu'il faut quand même bien savoir que plus ça va, plus on répond à des gens qui sont sans domicile fixe, des gens qui sont dans la rue à n'importe quelle heure du jour et de la nuit avec n'importe quelle température, enfin bon, qui sont vraiment dans des situations difficiles. Donc très souvent maintenant, j'ai des Roumains qui parlent espagnol parce qu'ils sont allés en Espagne pour travailler, qui se font braquer sur l'autoroute au retour en France, certainement la plupart du temps par d'autres Roumains qui les attendent, voilà. Donc, si vous voulez, on se rend compte, nous, que la situation en Europe change aussi par l'ouverture d'autres frontières, par les passages qui se font et qui ne se font pas toujours dans de très bonnes conditions, on le sait. Donc on a besoin de plus en plus de gens parlant les langues, soit du hongrois, du bulgare, du polonais, parce qu'il y a aussi pas mal de gens de Pologne qui vont travailler dans d'autres pays et qui sont des fois dans des situations difficiles, notamment des camionneurs en Pologne, enfin camionneurs polonais, il y en a aussi beaucoup qui vont travailler en Espagne. Voilà, il y a tout un échange comme ça qui se fait et qui fait que bah, si on pouvait avoir d'autres personnes qui nous donnent un petit coup de main. C'est plus qu'un petit coup de main. Il faut dire que les portables sont branchés 24 heures sur 24. Donc, il faut vouloir le faire. Bon, mais
comment est-ce qu'on peut vous contacter pour proposer ces services?
Alors, je vais vous donner mon téléphone, le téléphone de l'interprète en espagnol, parce que comme je gère l'association, c'est peut-être plus facile de donner directement mon portable. C'est le 06 08 85 72 89. Donc, je suis Marina pour les traducteurs d'urgence. Je crois que c'est le plus simple, effectivement, pour savoir comment ça fonctionne et si je peux avoir un interprète lui expliquer directement les besoins que nous avons.
Voilà, en sachant que c'est quelque chose de très sérieux, qu'il faut vraiment s'engager, qu'on risque d'être réveillé à 4 heures du matin et que, voilà.
Et que si on le fait, il faut savoir que c'est pas, ça ne sert à rien de le faire pour une semaine et de dire oui, je le fais et de ne pas adhérer complètement. Donc, voilà. Cela étant, je voulais rajouter juste une petite chose. On a aussi, depuis donc, la création de l'association, on a maintenant un travail avec le Conseil général de l'Hérault qui est assez conséquent aussi pour pas mal d'interprètes. C'est-à-dire qu'on intervient dans les antennes de solidarité. Donc, pareil, avec des situations de problèmes de papier, de problèmes... voilà. Et donc, pas mal de nos interprètes, maintenant, travaillent avec le Conseil général, qui nous a appuyés à une époque sous forme de subvention et qui, maintenant, nous a donné un marché, disons, qui nous permet, nous aussi, de faire un peu rentrer des financements. Parce qu'on est toujours association de l'an 1901, on a toujours besoin de financement, même si le service est bénévole, mais pour le fonctionnement de l'association, quoi, notamment payer les téléphones et les frais fixes.
On fait signe qu'il nous reste 2 minutes d'émission. Philippe, tu voulais intervenir sur cette association rapidement.
C'est un cas concret d'ouverture vers les Européens. Et moi, je vous félicite parce que je sais que ce n'est pas facile quand on est association de se tourner vers les autres. Donc, je vous remercie vraiment et chapeau quoi, et bon courage. Et la mairie sera toujours là pour soutenir ce genre d'initiative parce que c'est quelque chose d'extraordinaire.
Merci.
Merci.
Voilà, 1 heure, c'est trop court. Je le dis à chaque fois et tous les samedis matins, je dis 1 heure, c'est trop court. On se retrouve tous dimanche, demain, donc place de la Comédie pour cette journée de l'Europe. Tito, tu voulais avoir le mot de la fin?
Non. Voilà. Non, c'est bien demain.
Voilà, donc filigrane précis, c'est terminé. On se retrouve la semaine prochaine, mais sinon, demain, place de la Comédie. Merci à tous, merci à tous nos invités. Merci, au revoir.
Merci,
au revoir.
De m'avoir invité.
Filigrana imprecisa. Um toque de calçada e palavras imensas sussurram olhares precisos. A Divergência FM.
Filigrana imprecis. Poésie, littérature, musique, lignes chaotiques, murmures clamés d'un chant portugais sur Divergence FM.